France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, violence dans l'espace-temps. Le ciel nocturne nous semble toujours paisible dans le lointain, calme, tranquille, ordonné, quasiment invariable. Mais ce n'est qu'apparence et même tromperie. Car si nous troquions nos petits yeux pour des détecteurs de particules, nous constaterions que de jour comme de nuit, le ciel est le théâtre de tempêtes à la fois éclatantes et discrètes. Il abrite secrètement des violences inouïes, notamment lorsque des étoiles en fin de vie se dilatent au point d'engloutir et de vaporiser en un instant les planètes qui gravitaient autour d'elles. Il se trouve de surcroît continuellement traversé par des flux intenses de neutrinos, de rayons X et gamma, qui ne s'éteignent jamais. Quant à son espace apparemment tranquille, il est en réalité déformé par les objets qu'il contient, et il ondule sous le coup d'ondes gravitationnelles, sortes de monstres invisibles et silencieux, qui s'y déplace à la vitesse de la lumière. Pour discuter de cette violence qui gangrène l'univers et abîme les relations sociales entre ses constituants de matière, j'ai le plaisir de recevoir Kumiko Kotera. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne, directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris, organisme prestigieux, et vous venez de publier chez Albin Michel « L'univers violent », ouvrage passionnant qui met de l'existence plein les veines. J'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on commence par parler de l'actualité de cette semaine. On a appris en lisant la revue Nature qu'un détecteur installé au fond de la Méditerranée, au large de la Sicile, a détecté un neutrino dont l'énergie est colossale, c'est la plus élevée jamais enregistrée. Cette particule élémentaire de très faible masse a une énergie à peu près égale à celle d'une balle de ping-pong lancée à pleine vitesse. J'imagine que ça vous a réjoui ?
Ah oui, c'est un tel plaisir d'être à cette émission aujourd'hui, juste après cette revue de presse qui annonce ce très beau résultat. Alors, en fait, il s'agit très vraisemblablement d'un neutrino de ultra haute énergie. Donc, ce sont des énergies que si on voulait reproduire sur Terre avec les techniques, les technologies des accélérateurs comme on en construit à Genève, il faudrait construire des accélérateurs de la taille de notre galaxie. Donc c'est vraiment des choses gigantesques. Ces neutrinos, on en a déjà détecté à très haute énergie avec l'expérience Ice Cube, un gros bloc de glace de 1 km3 en Antarctique, tout à fait. Et l'énergie des neutrinos mesurés par Ice Cube est 1000 fois moindre par rapport à ce qu'on détecte aujourd'hui. Donc il s'agit d'une très belle fenêtre sur l'univers. C'est très excitant parce que la particule est nouvelle, mais aussi parce que ça pose énormément de questions, en fait.
Mais déjà, comment est-ce qu'on les détecte ? Parce que le neutrino interagit très faiblement avec la matière, d'où la difficulté de le détecter. Pourquoi est-ce qu'on met des détecteurs au fin fond de la Méditerranée, sachant que ces particules traversent la galaxie quasiment sans interagir? Et quelle est la méthode de détection? Comment est-ce qu'on arrive à les capturer?
Donc on a installé, c'est l'eau, effectivement, les neutrinos n'interagissent avec rien, interagissent avec très peu de choses. Là, vous avez des neutrinos qui sont produits par le Soleil, qui nous traversent chaque seconde. On en a 100 000 milliards qui traversent notre corps. Et il faudrait qu'on vive 100 ans pour qu'un neutrino daigne interagir avec notre corps. Donc, c'est vous dire...
Ils sont nombreux, mais discrets.
Ils sont nombreux, mais discrets, exactement.
Mais ceux du Soleil sont de basse énergie.
Exactement. Ils sont à 1 million de électron-volts. Et c'est-à-dire qu'on est à environ 1 milliard de fois plus basse énergie que ce que KM3Net, donc le détecteur en Méditerranée, vise à détecter. Alors KM3Net, donc KM3Net, kilomètre cube net, est un détecteur à 3500 mètres de profondeur dans la mer Méditerranée au large de Toulon, avec des capteurs de lumière qui sont enfilés un peu comme sur des perles, sur des filins très solides. Et on en a donc à l'époque de la détection, donc 2023, février 2023, il y avait 21 filins comme ça, lignes, qui étaient déployées.
Vous dites 2023, ça veut dire qu'il y a eu 2 ans d'analyse avant d'annoncer le résultat.
Oui, 2 ans d'analyse, 2 ans de...
Pour de doute.
Vérifier, voilà, de doute, effectivement, qui se conclut par un résultat qui est solide en termes d'énergie. Donc la particule, on sait qu'il s'agit d'un muon, d'ailleurs. La particule qui est détectée la particule fille d'un neutrino, probablement. Donc c'est un muon.
En fait, le neutrino rentre en collision avec un noyau. Il y a émission d'un muon qui va plus vite que la lumière dans l'eau. Il va moins vite que la lumière dans l'huile parce que cette vitesse-là ne peut pas être dépassée. Et c'est la lumière Cherenkov émise par le muon qui va plus vite que la lumière dans l'eau qui est détectée par le détecteur en question.
Voilà, et par toutes les particules filles cascades qui sont émises par le muon au moment où il entre dans l'eau et qu'il interagit. Donc ce muon, le muon, c'est une particule cousine de l'électron et qui est donc une particule subatomique, effectivement, qui est produite par un neutrino lorsque le neutrino interagit. Et l'eau est un vecteur très intéressant pour détecter ces neutrinos, parce que la probabilité pour un neutrino d'interagir avec des molécules d'eau est plus importante que lorsque le neutrino traverse l'air, par exemple, ou même la roche, d'ailleurs.
Alors, qu'est-ce que vous savez de l'origine de cette particule ? On sait qu'elle vient de l'en dehors de notre galaxie. Est-ce qu'on a des idées sur sa source et surtout sur le processus qui a permis de l'émettre avec une énergie aussi grande ?
C'est là que réside tout le mystère et c'est là que c'est très excitant. Et je dirais même, c'est là qu'il y a une grande incertitude parce que, je mettrais une nuance là-dessus. On n'est pas absolument certain que cette particule vienne en dehors de la galaxie.
C'est ce que dit l'article.
Non, l'article dit que la direction d'arrivée de ce potentiel neutrino père du muon, correspondrait avec une incertitude de 1,5 degré à quelque chose qui viendrait de l'horizon, en dehors de la Terre. Mais il est aussi possible que en fait, ce muon a été produit par un neutrino qui a été produit à l'intérieur de l'atmosphère terrestre par une autre particule, un rayon cosmique.
Donc ça pourrait être une particule secondaire, du coup.
Exactement. Et à ce moment-là, ce n'est pas directement un neutrino de ultra-haute énergie qui nous proviendrait du cosmos. Donc voilà, il y a cette incertitude. Mais si jamais on suppose que ce neutrino... La direction d'arrivée est plutôt en dehors de la Terre, effectivement, qui viendrait de la galaxie. Là, ça devient très excitant. Et ce qui est excitant aussi, c'est que on ne voit rien. Il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source violente, évidente, dans ce champ de vue.
Plusieurs fois, Kumiko Kotera, vous avez employé le mot excitant. Vous dites c'est excitant. Vous écrivez dans votre livre, page 51, « Mon carburant au jour le jour, c'est la résolution de puzzle. Ce qui compte in fine, c'est ce flottement au ventre à l'approche d'une réponse, l'hormone du plaisir à la prise de données, au code qui crache des bandes de chiffres et se concrétise en une figure sensée. C'est la non-linéarité de nos journées. » Vous êtes servi, là?
Oui. Oui, oui, on est servi, c'est ça la recherche, c'est de nous heurter, je trouve, à ces puzzles et à pouvoir collectivement essayer de les résoudre.
Mais ça, c'est quand même des événements qui sont très rares.
C'est un événement très rare. C'est un événement rare, mais alors je dirais qu'il y a deux types de belles découvertes. Il y a les découvertes comme les ondes gravitationnelles, la première fois que les ondes gravitationnelles sont découvertes, tout colle parfaitement. Tout colle. Le signal avait été théorisé. On a un détecteur qui fonctionne. Tout et on fait l'analyse.
Et ça coïncide.
Tout coïncide. Et c'est incroyable. Et je dirais que ça, c'est l'émotion suprême. C'est lorsque ce qu'on a créé avec notre cerveau et avec nos mains, et ce qui est rendu par l'univers et l'observation, la théorie, tout semble rentrer parfaitement, les morceaux du puzzle s'imbriquent. Là, je dirais que c'est un peu l'émotion suprême. Et là, on est certain, après de nombreuses analyses quand même, on est certain que là, on a atteint une certaine validité scientifique quasi absolue. Dans le cas présent, je dirais que c'est un autre type d'émotion. Parce que je dirais qu'on est un peu dans une excitation fébrile, perturbée, perplexe. Parce que on a quelque chose de très excitant. On sait qu'il y a une particule énergétique comme on n'en a jamais vu. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de mystères qui entourent cette détection. Parce que il y a de l'incertitude, parce que le détecteur n'était pas complet, parce que la calibration n'est pas faite totalement. Et on se retrouve quand même avec quelque chose qui nous arrive. C'est ça, hein, l'univers violent, c'est un peu ça, c'est d'être d'attente d'une immédiateté de quelque chose qui arrive soudain et de pouvoir réagir. Et sauf que là, ça ouvre plus de questions que ça n'en résout. Et je dirais que c'est plutôt dans ce format de résultat qu'on avance quotidiennement. C'est assez rare, ces premiers bouleversements où tout est parfait. Et oui, ce genre de résultat alimente, pas au quotidien, parce que c'est quand même rare, nos recherches, notre fonctionnement en tant que collectivité.
Est-ce que vous diriez, Kumiko Okotera, que vous êtes une paparazza du cosmos? Paparazza étant le féminin singulier de paparazzi au pluriel.
J'aimerais beaucoup le devenir avec le détecteur qu'on essaie de construire, qui justement...
On en parlera, qui s'appelle Grant.
Oui, c'est ça, qui vise vraiment à détecter les particules dont peut-être une a été détectée par KM39.
Les neutrinos.
Oui, c'est ça. Mais oui, notre communauté, on est des paparazzis du cosmos. On est là avec nos caméras, nos observatoires, embusqués, en attente de l'événement qui va arriver. Et on n'est pas comme dans un laboratoire où on peut reproduire des expériences. Par essence, on est obligé d'attendre que l'univers se révèle. Et en ce sens-là, le moment où l'univers va se révéler, va exploser, va jaillir et pétiller, c'est là, c'est
ça. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans l'étude des phénomènes violents? On vous imagine mal vous passionner pour les écoulements laminaires dans des tubes calmes.
Je pense que peut-être que ça m'aurait plu aussi. C'est ce que je disais, en fait, justement, dans le livre. Que...
Non, dans le livre, je vais vous citer.
Parce oui.
C'est une phrase qui m'a, disons, interrogé. Vous dites, page 68, « L'univers violent a rejoint quelque part l'adolescente grenobloise que j'étais, et ce n'est probablement pas un hasard que je travaille sur cette thématique. À choisir, je préfère vivre peu, mais beau, bref, mais intense. Avec tous ces objets du ciel violent, je me sens bien accompagné. » Est-ce qu'il y a une relation psychologique entre votre tempérament et le type de phénomène physique que vous étudiez, à votre avis?
Je suis certaine que ça existe chez tous les chercheurs. Je suis certaine que la façon dont la science est faite, par les chercheurs individuels et par les chercheurs ensemble qui s'assemblent, va colorer la science et le domaine dans lequel on se lance.
Mais ça veut pas dire que vous avez un tempérament violent.
Je pense pas avoir de tempérament violent, au contraire, je pense. Par contre, j'ai ce côté, on va dire, j'aime être bouleversée. Ça, c'est vrai. C'est aussi, je crois, un terme que j'utilise, mais cette patience dans l'impatience, ou le contraire, d'ailleurs. Je pense que cette exploration du ciel violent requiert une forme de, une grande patience. Parce que on attend. Et en même temps, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement patient. J'aime lorsque les choses surgissent. J'aime être, d'une certaine façon, oui, voilà, bouleversée. C'est ça qui m'anime au quotidien. Et en ce sens-là, je crois que ce domaine me correspond bien parce que il requiert de construire ensemble des instruments ambitieux, performants, et d'être prêt, voilà, donc d'avoir un effort massif pour tout lisser, faire tout bien et en même temps d'être dans cette attente-là.
Alors, est-ce que vous aimeriez, pour mieux comprendre l'univers, partir dans l'espace, devenir astronaute, faire même un vol parabolique? Est-ce que ça vous intéresse?
Pas du tout.
C'est bizarre. Parce qu'un vol parabolique, c'est pas très compliqué. Ça permet de ressentir le principe d'équivalence entre la gravitation et l'accélération. On comprend mieux la physique quand on l'a vécu avec son corps.
Peut-être. Je crois que je suis très cérébrale dans ma façon d'appréhender le monde, la physique. Et c'est ce que j'écris d'ailleurs un moment dans mon livre. Mais toute cet engouement auprès de l'exploration spatiale ou de ces aventures corporelles, je pense que je préfère les faire les pieds sur Terre. D'ailleurs, mais ceci dit, ce que j'adore, et ça je m'en lasserai pas, c'est le terrain. Les missions sur le terrain, où on manipule sur les données, enfin sur les instruments, où on est en contact de cette, parce qu'on se retrouve quand même dans des géologies incroyables, c'est magnifique, et des cieux splendides. Cette connexion-là de travailler avec nos petites mains comme un artisan sur ces instruments et de voir le ciel, ça c'est incroyable.
Alors Kumiko Kodera, si vous voulez bien, venons-en au cœur de votre sujet. Qu'est-ce qu'on appelle un phénomène violent? Est-ce que c'est une affaire d'énergie, de puissance, de brièveté? Est-ce qu'un phénomène peut être à la fois violent et durable?
C'est tout ce que vous dites. Durable, ça dépend ce qu'on entend par durable. Je pense que par phénomène violent, nous, dans notre communauté, on entend quelque chose qui est visible par l'être humain. Et un événement qui surgit et qui est mesurable dans une période de quelques fractions de secondes à quelques mois, voire années. C'est vraiment cet ordre
mais
de grandeur.
C'est pas par le humain, puisque c'est un détecteur qui vous a permis de détecter, en l'occurrence, le neutrino dont on vient de parler.
Ce sont des détecteurs, mais qui sont quand même construits par des hommes. Ce que je veux dire, c'est que...
Ah, des prothèses humaines.
Des prothèses humaines, tout à fait. Comparé aux échelles de temps sur lesquelles se mue l'univers, d'autres pans de l'univers, les valses très longues de galaxies sur des millions d'années, les évolutions d'étoiles, toutes ces choses qui se passent sur des échelles qui nous dépassent complètement, ces événements violents dont je parle dans ce livre sont extrêmement fugaces. Et c'est ça qui nous intéresse.
J'ai une question qui est peut-être trop personnelle, et si c'est le cas, vous êtes autorisé à ne pas y répondre. Mais que faisiez-vous, Kumiko Kodera, le 17 août 2017, à 13h41 minutes et 4 secondes?
Ce n'est plus personnel, puisque je le raconte dans le livre.
Et moi, je veux toute la vérité.
Toute la vérité. Mais la vérité est effectivement dans le livre. Donc, j'étais enceinte. J'étais sur un escabeau en train de mettre du papier peint sur des murs parce que j'avais décidé que je me prenais un moment pour nidifier et pour installer mon nouveau chez moi avec mon enfant. Enfin, avec mes enfants, parce que j'avais un grand et j'avais mon petit dans le ventre. Et je pensais prendre ce temps-là. Et puis, paf!
Qu'est-ce qui s'est passé?
D'un coup, j'ai des collègues qui m'écrivent, qui me disent, il se passe quelque chose.
Parce que quand vous repeignez une chambre, vous êtes connecté.
Non, à ce moment, en fait, ça m'a pris un peu de temps quand même. Pour être totalement honnête, j'ai eu quelques jours, voire même quelques semaines avant de réagir. Je pense quand même que, voilà, la vie personnelle avait pris un peu le dessus et j'étais déconnectée de cette effervescence scientifique. Et puis surtout, toutes ces informations étaient complètement cloisonnées à l'intérieur des collaborations qui traitaient l'information. Donc, a priori, il y avait des fuites, mais c'était pas public. Et moi, je ne faisais pas partie ni de la collaboration LIGO Virgo qui a fait cette détection d'ondes gravitationnelles, ni des grands observateurs.
Alors, de quoi s'agit-il? LIGO, c'est un détecteur d'ondes gravitationnelles aux États-Unis. Virgo, c'est un détecteur en Italie, près de Pise. Et quelle est l'information qui vous a été transmise ce jour-là, puis dans les semaines qui ont suivi?
Par des collègues, vous voulez dire?
Oui.
Alors, je ne peux pas citer mes sources, évidemment. Mais bien sûr, j'ai plusieurs collègues qui travaillent dans LIGO Virgo et qui m'ont envoyé des messages en me disant « Je crois qu'il se passe quelque chose d'assez formidable. Donc j'ai réagi, je leur ai demandé « tu peux m'en dire plus ?» Et ils m'ont envoyé quelques lignes laconiques en forme de teaser. Et j'ai quand même dû attendre la, on va dire, assez proche de la revue de presse pour avoir des informations beaucoup plus concrètes.
Donc on est en 2017, on a oui. déjà découvert des ondes gravitationnelles 2 ans auparavant.
Oui.
Ça a été annoncé en 2016, mais la traversée de la Terre par ces ondes s'est faite en septembre 2015. Et là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Et qu'est-ce qu'il y a d'excitant, pour reprendre votre vocabulaire ?
Là, c'est extraordinaire. Je pense, ça c'est mon point de vue personnel, mais je dirais presque que c'est beaucoup plus excitant ce qui s'est passé en 2017 qu'en 2015.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
2017, on a, pour la première fois, l'observation d'ondes gravitationnelles qu'on peut apparenter au son de l'univers, puisque ce sont des ondulations du tissu de l'espace-temps, un peu comme du son, et de la lumière, en même temps, d'une même source. C'est comme si, d'un coup, on passait d'un cinéma muet à un cinéma parlant. On a regardé le ciel pendant toute la durée de l'humanité avec nos yeux et juste avec nos yeux. Et on commençait, bien sûr, on avait quelques particules qui nous pleuvaient dessus. Et ça nous apportait le toucher. Mais jamais on n'avait réussi à relier pour une source donnée ces particules, et d'ailleurs ça reste un mystère, ces particules et la lumière. Là, pour la première fois, on a deux messagers combinés qui nous racontent l'histoire d'une source en train d'exploser.
C'est ce que vous appelez un golden event.
Exactement, oui.
Et alors, cette source était, d'après ce que j'ai compris en lisant votre livre, une coalescence de 2 étoiles à neutrons.
Oui.
Pourquoi on dit coalescence et pas fusion ? C'est la même chose, non ?
C'est la même chose, oui, oui.
Donc, c'est des ondes gravitationnelles qui ont été produites par une fusion de 2 étoiles à neutrons.
Oui.
Et vous avez détecté une vibration de l'espace-temps induite par ce phénomène en même temps qu'une forme de lumière.
Exactement.
Associée à ce... Alors, lumière infrarouge, X, gamma, tout.
Tout, tout. C'est ça qui était fou. C'est que d'abord, on détecte la lumière gamma, qui est issue d'un jet, en fait, au moment de cette coalescence, de cette fusion de 2 étoiles à neutrons. Donc, les étoiles à neutrons, ce sont les plus petites étoiles de l'univers. Ce sont les restes des étoiles massives qui ont explosé en ce qu'on appelle des supernovae. Et même ça, je trouve ça très joli, c'est que les plus petites étoiles de l'univers nous ont fait un ballet, un spectacle magnifique, son et lumière. Donc, elles fusionnent, et au moment où elles entrent en fusion absolue, elles arrivent à créer un jet de matière et de lumière qui se trouve être dirigé vers nous. Et ça aussi, c'est rare. C'est pour ça que c'est
pas... Il faut qu'on soit dans la bonne direction.
Exactement. Si on était un peu décalé, d'ailleurs on était un peu décalé, on aurait pu complètement passer à côté. D'ailleurs, on passe régulièrement à côté de ces coalescences.
C'est presque un miracle. Enfin, en tout cas, c'est un coup de chance.
C'est un gros coup de chance. C'est un gros coup de chance tellement... miraculeux non, en fait. Ma collègue Samayani Sanke, qui avait prédit ce Golden Event et qui avait travaillé dessus, avait un peu parié sur le fait que ça arriverait
une fois dans ses carrières.
Voilà. Et c'est le moment où elle fait ce pari avec un collègue à une conférence, elle dit, parce que personne n'y croyait que ça allait vraiment arriver. Elle dit « je fais ce pari », elle serre la main de ce collègue et là, elle va dans son bureau cet après-midi-là. Elle ouvre ses mails et là, toute l'aventure commence. L'Ego Virgo est en train d'annoncer qu'il y a une détection. Et c'est ça aussi, je trouve.
Cette amie, vous en parlez longuement dans votre livre, Samaya Nisange,
oui,
qui a donc vécu des moments incroyables en apprenant que ce qu'elle avait prédit se réalise bien. Mais vous parlez aussi de sa tristesse et de sa déception après coup, quand elle a compris que les équipes qui collaboraient étaient en fait en compétition, de façon pas toujours très fair-play.
Ça, je crois que c'est le propre de la communauté de recherche lorsqu'il y a... Enfin, au bout d'un moment, souvent, on rencontre des frictions. Parce que, à la fin... Je dirais que la seule reconnaissance qu'on peut avoir de notre travail, c'est la reconnaissance des pairs. et c'est la publication. Nous, on travaille pas avec, on n'a pas de but lucratif, on travaille pas avec d'argent, de brevets ou ce genre de choses. Et notre nom à poser sur un article, ce genre de choses, c'est ça qui va faire que toutes ces années à travailler, à attendre, à ne pas dormir, va avoir un sens. Et je pense que c'est là que ça peut frotter, parce que ça peut être assez viscéral, mais à la fin, malgré tout, c'est ce que je raconte aussi dans ce livre, on arrive à trouver des consensus, on arrive à rassembler les gens, parce que aussi, on n'est pas en guerre ouverte, on ne brasse pas d'argent, et on arrive à, on est quand même des gens raisonnables qui arrivons à travailler ensemble. Il y a une autre tristesse, en fait, dans cette histoire, qui n'est pas juste liée à ce bain de sang, comme je dis, pas autour des collaborations et des reconnaissances des uns et des autres, qui est liée à son histoire personnelle, parce que elle a énormément œuvré pour la sortie de ce résultat et la sortie de cette publication. Elle a même été l'instigatrice à la base. C'était elle aussi qui avait prédit ce Golden Event. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas pu montrer à la grande conférence de presse le jour où le résultat est annoncé. Elle a été mise de côté. Elle n'a pas pu être présente pour annoncer aussi son résultat. Et elle s'est beaucoup posé la question de pourquoi ? Qu'est-ce qui...
Est-ce qu'elle a une réponse ?
Il y a beaucoup de... Je pense que c'est assez compliqué dans le sens où ça mélange beaucoup de choses. Clairement, je vais le dire, hein, le fait qu'elle soit une femme, sa culture, le fait d'être dans cette... dans ce don de soi pour la communauté et d'être dans la gratitude, c'est des choses qui colorent beaucoup sa personnalité et pas que la sienne. Je dirais beaucoup.
Mais si j'ai bien compris, elle a une forme de reconnaissance après coup. Elle a pu.
Elle a eu beaucoup de.
Sa maternité ou sa paternité, je ne sais pas ce qu'il faut dire, a finalement été reconnue.
Oui, bien sûr. Donc c'est. Je pense que elle a fini. Enfin, elle a digéré l'histoire, mais. Sur le coup et pendant assez longtemps, je pense que c'est des choses qui marquent lorsqu'on ne reçoit pas exactement la reconnaissance pour le travail qu'on fait pour des raisons qui nous semblent pas justes.
Kumiko Kotera, il y a un mot qui revient, un mot très rare qui revient souvent dans votre livre, qui est le mot kilonova. Qu'est-ce que c'est qu'une kilonova? Et pourquoi est-ce que vous dites que c'est une mine d'or?
Une kilonova, c'est une forme de c'est un peu comme une supernova.
Donc une étoile qui explose.
C'est ça, c'est l'enveloppe d'une étoile. Donc une supernova, c'est l'enveloppe de l'étoile qui explose à la fin de sa vie par différents mécanismes physiques. Et la kilonova, c'est le même genre de chose, mais qui se passe autour de la coalescence d'étoiles à neutrons. Et ça avait été théorisé bien en amont par Pachinski, grand physicien. Et il se trouve qu'on voit exactement ce qui avait été théorisé, avec les bonnes couleurs, les bonnes lumières, les bonnes longueurs.
Vous dites que c'est bicolore.
Oui, c'est ça aussi, c'était extrêmement joli. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'émotion scientifique du résultat qui colle parfaitement. Donc, ce qui avait été théorisé, c'était que on avait dans l'axe du côté de la coalescence de deux étoiles à neutrons, vous pouvez imaginer que ça se passe au niveau d'un disque. D'accord? Donc, ça se passe
dans
un plan. Et le jet de matière qui va sortir et illuminer l'univers, et qu'on va pouvoir voir en rayon gamma, donc la lumière
la plus énergique. Perpendiculairement au plan.
Perpendiculairement au plan, exactement. Et perpendiculairement au plan, on a une lumière bleutée qui est émise, toute cette explosion de kilonova qui se fait donc tout autour de ce disque, au niveau du jet, se fait à une couleur bleutée. Et dans le plan équatorial, donc au niveau du disque, là où ça s'échappe sur les côtés, là, par là, on a une lumière plutôt rouge. Et en fait, tout ça s'explique par les mécanismes physiques qui ont lieu au moment de l'explosion et les processus nucléaires en fait, des particules, ce que les particules subissent comme interaction nucléaire à l'intérieur de cette matière qui s'en va et donc qui génère des couleurs différentes. Et là, alors, votre question sur l'or, ça c'est, je trouve ça aussi fabuleux et tellement poétique, c'est que on ne connaissait pas jusqu'à, enfin, il y avait des théories qui disaient, enfin, donc on ne savait pas, on ne connaissait pas jusqu'à présent l'origine des éléments lourds comme l'or, le platine, le bismuth, tout ça.
Les bijoux,
les bijoux ou l'arsenic, qui n'est pas voilà. Un bijou.
Voilà. Choisissons donc, les bons éléments dans la liste.
Voilà. Donc globalement, au-delà du fer, qui est un élément qui était produit, qu'on savait être produit dans les supernovae ou dans les cœurs stellaires, et ça, c'était bien, bien compris, les éléments plus lourds, on ne savait pas où ils étaient produits parce qu'il fallait une énergie, enfin, des conditions physiques très particulières pour les produire qu'on ne retrouvait pas dans les explosions
notamment
de
supernovae. Notamment des neutrons intenses, des flux
exactement,
de neutrons intenses.
Exactement.
Et une kilonova en contient ou en produit.
C'est ça. Parce que coalescence d'étoiles à neutrons.
Bon, ça veut dire que si vous portez un bijou en or, une bague par exemple, au doigt, c'est grâce aux explosions, ou plutôt aux fusions d'étoiles à neutrons.
C'est ça.
L'intégralité de l'or vient de là.
C'est ça. C'est fou. C'est fou.
Mais est-ce qu'on ne devrait pas le dire davantage?
Ah, je trouve qu'on devrait le dire davantage. Non, non, mais c'est clair que depuis ce moment-là, moi, je regarde mes bijoux avec un regard regard très différent.
Qu'est-ce qui se passerait si une supernova apparaissait dans notre galaxie? Est-ce qu'on la verrait donc intensément, y compris la nuit? Et est-ce que la lumière qu'elle enverrait en permanence ne serait pas une gêne pour vous autres, les astrophysiciens et si. Les astronomes?
Si, si. Ça dépendrait, en fait. Il paraît qu'on aurait dû assister à de nombreuses supernovae au sein de notre galaxie, mais qu'elles ont potentiellement été écrantées par la poussière de notre galaxie. Donc, il faudrait qu'elles soient quand même positionnées de façon...
Parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, hein.
Il n'y en a pas beaucoup, il y en a une.
La dernière, une a été vue par les Chinois et par d'autres en 1054. Il y a celle qu'a observée Kepler.
Exactement.
Au 17e, et depuis rien.
Depuis rien. Et pourtant, on estime à une tous les 60 ans.
Donc, il y a un problème, non?
C'est ça, donc il y a un problème que les astrophysiciens essaient d'expliquer avec cette histoire de poussière. Donc s'il y a trop de poussière entre la supernova et nous, on ne peut pas la voir sur Terre. Ce serait l'explication.
Alors, admettons qu'il y en ait une qui soit visible.
Oui.
Comment est-ce que ça se passerait pour nous? Pendant combien de temps la verrions-nous briller dans le ciel?
Tout dépend de la distance. Voilà. Mais on pourrait la voir en plein jour. Elle pourrait briller autant qu'un quart de lune, une demi-lune. Ce serait extrêmement brillant. Ça perturberait tout le monde. Parce qu'on si au milieu, dans la nuit, ça nous créerait un deuxième phare en plus de la lune. Et ça désorienterait les animaux, ça nous désorienterait aussi. Pour les astronomes, ce serait quasiment une catastrophe. Parce que
en même temps, ils seraient excités, je pense.
Ah oui, ce serait extraordinaire.
Mais est-ce que vous attendez, vous qui aimez les choses violentes, au moins dans l'univers, est-ce que vous attendez ça avec impatience? Est-ce que vous espérez voir un tel événement durant votre carrière?
Ah oui, oui, oui. C'est un peu notre graal.
Est-ce qu'il y a des phénomènes violents observés que la théorie n'explique pas? Alors, on a parlé du neutrino d'une certaine façon tout à l'heure, on comprend pas bien son origine. Et est-ce qu'il y a des phénomènes prédits par les théories qu'on n'observe pas? Alors que les théories disent qu'on devrait les observer.
Vous voulez dire des astres...
Non, des phénomènes violents que la théorie prédit et que pour l'instant, on n'arrive pas à détecter.
Des phénomènes violents qu'on ne détecte pas? J'ai plutôt tendance à penser que ça arrive dans l'autre sens. C'est plutôt qu'on...
C'est des phénomènes qu'on observe que la théorie n'explique pas.
Oui, oui, oui. C'est plutôt dans ce sens qu'on travaille, je dirais. en tout cas en tant qu'astrophysicien.
Parce qu'il y a des particules du rayonnement cosmique extrêmement énergétiques,
oui.
Bien plus que le neutrino dont on a parlé tout à l'heure,
qui sont
des ions ou des protons,
oui.
Et elles ont des énergies tellement élevées qu'on ne comprend pas les mécanismes capables de les produire.
Tout à fait, ça c'est un grand mystère.
Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans nos théories qui n'arrive pas à gripper ces processus, on pourrait dire.
En fait, on a des théories pour expliquer ces mécanismes, c'est juste qu'on n'arrive pour l'instant pas à relier les sources qui pourraient être à l'origine de ces mécanismes avec les particules qu'on observe. Enfin, on n'a jamais observé, et pour cause, il y a plein de raisons pour cela, en particulier que les particules sont déviées par des champs magnétiques au cours de leur trajet, et donc elles ne vont plus pointer vers leur source originelle. Mais oui, le problème principal, je dirais qu'on a des théories pour expliquer l'accélération, on a des théories pour dire que telle source pourrait être à l'origine de ces mécanismes et donc générer des rayons cosmiques de ultra haute énergie. Par contre, les particules qu'on détecte sur Terre ne pointent pas vers ces objets-là.
Est-ce qu'on a raison de dire, Kumiko Kotera, que plus les événements sont puissants et plus ils sont rares?
C'est assez vrai. C'est naturel. Pour pouvoir fournir énormément d'énergie, il faut se lever tôt.
Et on ne peut pas le faire tous les jours.
Non, on parle quand même d'énergie tellement colossale. Un sursaut gamma, qui est l'événement le plus brillant, le plus puissant de l'univers au moment où il éclate. C'est rare, mais si, c'est normal, parce que si autant d'énergie concentrée à un endroit, ça ne peut pas être monnaie courante.
C'est quoi un blazar? Autre mot rare qu'on trouve dans votre livre, vous parlez même de sursaut blazar, de sursaut de blazar.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Un blazar, c'est un monstre. C'est une émanation. Enfin, c'est une famille de galaxies. Donc, on a des galaxies comme les nôtres qui sont tranquilles. Mais toutes les galaxies abritent en leur sein un trou noir supermassif. Donc, un trou noir, c'est un objet dans lequel la gravité est tellement intense que rien, même la lumière, ne peut s'en échapper. Donc, on a des galaxies avec des trous noirs supermassifs, et certaines galaxies ont un trou noir très actif. Tellement actif que certains trous noirs ont réussi...
Actif, c'est-à-dire qu'il continue à absorber des étoiles.
C'est ça, il va accréter toute la matière environnante, donc c'est le trou noir accrète tout. Ça fait une espèce de spirale tout autour de ce trou noir, et avec l'association de ce mouvement de matière avec un champ magnétique, donc une forme de série d'aimants, va créer une espèce de gaine, une gaine dans laquelle on va pouvoir éjecter de la matière et de la lumière. Et ce grand jet qui peut atteindre des parsecs, des kiloparsecs,
des années-lumière
dans l'univers, va arroser donc très loin dans de lumière tout l'univers, et ces galaxies dotées de grands jets, c'est ce qu'on appelle les blazars. En fait, c'est ceux qu'on peut observer dans l'axe du jet. C'est ceux qu'on appelle les blazars.
Et les sursauts de blazars?
Les sursauts de blazars, c'est quelque chose qui n'est pas si bien compris. Mais on voit dans certaines de ces, dans beaucoup de ces blazars, donc ces galaxies très actives, on voit de temps en temps des bouffées de lumière. Donc, il est tranquille, il brille fortement, son jet brille fortement dans notre axe, et d'un coup, on voit que la lumière fait un bond de 100 à 1000 fois ce qu'il fait d'habitude. Donc, d'un coup, ça devient extrêmement lumineux, et ça s'arrête. Et c'est voilà, une bouffée, un sursaut.
On a parlé Kumiko Kotera des rayons cosmiques. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent sur Terre chaque année, c'est un kilogramme à peu près. Mais certains ont des énergies colossales dont l'origine reste inconnue. Mais est-ce qu'il y a des scénarios qui sont envisagés pour expliquer d'où ils viennent et comment ils peuvent acquérir, soit durant leur parcours, soit à leur naissance, une énergie aussi élevée.
En fait, déjà, 1 kg de rayons cosmiques par an, c'est beaucoup. C'est 10 puissance 27.
Oui, c'est beaucoup de particules.
C'est beaucoup de particules.
Et c'est pas une grosse masse, c'est ça que je veux dire.
C'est pas une grosse masse, ça c'est sûr. Et effectivement, il y en a et certaines qui arrivent avec des énergies tellement grandes que, comme je disais tout à l'heure, il faudrait un accélérateur de la taille de notre galaxie pour les accélérer avec la technologie terrestre. Donc ça, ces rayons cosmiques-là, on en reçoit 1 km² par siècle. Donc là, on parle vraiment de particules très rares. Et pour les accélérer, il y a différents mécanismes qui sont invoqués par les astrophysiciens, qui impliquent toujours des champs magnétiques, des mouvements de matière. Et par exemple, il y a un mécanisme qu'on appelle le mécanisme d'accélération de Fermi, qui est une espèce de... Visuellement, ça se comprend assez bien. C'est comme si on jouait au tennis avec 2 raquettes et qu'on transférait à chaque coup donné de l'énergie à la balle qui est la particule.
Supplémentaire, une énergie supplémentaire à chaque frappe.
Voilà, oui. Et au lieu d'avoir des raquettes, on a des mouvements de matière dans l'univers. Donc c'est des régions qu'on appelle des régions de choc. Donc lorsqu'on a une étoile qui explose, par exemple, toute l'enveloppe de l'étoile va être éjectée dans le milieu interstellaire, dans le milieu en dehors de l'étoile. Et l'interface entre cette enveloppe stellaire et le milieu interstellaire va créer une espèce de discontinuité qui peut jouer, ça devient un peu technique, hein, mais qui peut jouer le rôle d'une raquette. C'est une discontinuité, une raquette. Et on va servir de cette discontinuité pour frapper une particule de part et d'autre et lui donner de l'énergie.
Alors vous, les particules que vous aimez traquer sont les neutrinos.
Oui.
Vous avez un projet, vous l'avez expliqué, qui est en cours de, non pas de conception, mais d'installation.
Oui.
Qui s'appelle Grant. En quoi consiste-t-il et qu'est-ce que vous espérez démontrer, trouver? Et pour le dire de façon plus rapide, quelle est la question relative au neutrino qui vous tourmente?
Grand a pour objectif de détecter des neutrinos de ultra haute énergie. Donc la particule qui a peut-être été détectée par KM3Net, mais de façon quasiment ancillaire, parce que KM3Net avait pour objectif de détecter des particules 1000 fois moins énergétiques. Donc là, c'est un coup de bol. Mais il faut des détecteurs dédiés pour ouvrir cette fenêtre d'énergie extrême dans l'univers. Ce que ça va nous donner, ce que ça va nous permettre d'étudier, d'ouvrir une telle fenêtre aux énergies extrêmes, ça va être ces phénomènes les plus violents, les plus énergétiques et incompris de l'univers. Les sursauts gamma, les coalescences d'étoiles à neutrons, les blazars, les sursauts de blazars, tout ça, a priori, produit des neutrinos de ultra haute énergie et avoir ce nouveau messager, ça va nous permettre de corréler différentes informations et de comprendre mieux le fonctionnement de ces objets.
C'est une collaboration internationale.
C'est une collaboration internationale.
Quand auront lieu les premières prises de données et où est-ce que ça va se passer?
Oui, Grand, c'est un projet qui est gigantesque. L'idée, c'est de détecter ces neutrinos en utilisant le signal radio émis par ces particules de façon assez indirecte. Donc un neutrino va interagir dans la roche en arrivant sur Terre, va ensuite se transformer en une particule fille qu'on appelle un tau, une particule tau.
Lepton-tau.
Un lepton-tau.
Sur des électrons lourds.
C'est ça.
Très lourd.
Très lourd. Et ce tau va sortir dans l'atmosphère et se désintégrer, parce que c'est une particule qui a une durée de vie limitée. Et cette désintégration va générer une cascade de particules filles dans l'atmosphère. Et cette cascade de particules va produire un signal radio qu'on va pouvoir détecter avec des antennes radio très simples. Quasiment comme ce qu'on a sur nos voitures. Et dans la bande FM d'ailleurs, ce que vous écoutez là. donc l'idée, ça va être... Comme ces neutrinos.
France Culture n'a pas de concurrent.
Oui. comme on a des particules très rares, il va falloir déployer des antennes radio sur des surfaces gigantesques pour avoir une chance de détecter ces particules-là. Donc l'idée, ça va être de déployer des dizaines de milliers d'antennes sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés, et ce, dans des déserts. Parce que, là, vous écoutez la radio, et que du coup, cette radio va polluer notre signal radio, nous, qu'on veut
écouter. On vous gêne.
Voilà, ça, c'est ça.
C'est pour ça que vous allez loin des antennes de Radio France ou d'autres, d'ailleurs.
C'est ça, on essaie d'aller dans des endroits extrêmement peu denses.
Et en l'occurrence, ça sera à quel désert ?
Donc là, on a deux sites envisagés. Donc le premier site sur lequel on travaille sur notre prototype, c'est le désert de Gobi, en Chine. Donc très loin de toute population. Mais malgré tout, on est pollué par différents bruits. Il suffit qu'il y ait un avion qui passe, une mine dans le lointain. Ça pollue énormément nos données. Et le challenge, c'est vraiment pour nous de trouver cette aiguille dans la botte de foin, de trouver ce petit signal radiophysique du neutrino ou d'un rayon cosmique, enfin de toutes ces particules qu'on va essayer de détecter parmi ce bruit ambiant radio.
Kumiko Kotera, je l'ai dit en vous présentant, vous êtes directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui a été créé en 1946, enfin construit en 1946 à l'initiative de Jean Perrin, qui a créé en même temps l'Observatoire de Haute-Provence.
Oui.
En fait, ils ont été créés ensemble parce que l'un devait prendre des données et l'autre les analyser. Comment est-ce que ça marche aujourd'hui ? Et comment est-ce que votre vie a changé depuis que vous êtes jeune directrice d'un institut prestigieux ?
Déjà, je voudrais corriger, c'est 1936.
Pardon. Ça, c'est la décision.
Oui, c'est la décision.
Et la mise en service, c'est 46.
Oui, c'est vrai. Comment est-ce que ça a changé ma vie ?
Ça a été décidé pendant le Front Populaire.
C'est ça.
Puis la guerre est intervenue.
Voilà, la guerre est passée par là. Non, c'est un bel institut. C'est un grand honneur de diriger l'IAP, l'Institut d'astrophysique de Paris. C'est un endroit où j'ai grandi, en fait. J'ai fait ma thèse là-bas. J'ai fait une grande partie de ma carrière. Et donc, je connais très bien cet institut. Il m'est très cher. Et d'une certaine façon, j'avais envie de rendre un peu ce qu'il m'avait apporté. Et j'espère qu'on va pouvoir faire ça ensemble. Qu'est-ce que ça a changé pour moi ? Beaucoup de choses. Je suis beaucoup en réunion. Non, ça m'apporte qu'est-ce que ça a changé dans ma vie de chercheuse? C'est vrai que c'est un travail extrêmement différent de ce que je faisais avant. Bon, j'étais déjà directrice adjointe pendant quelques années, mais là, c'est une autre dimension. Et en plus, j'arrive à un moment où c'est compliqué, on va dire, la recherche en France. Il y a beaucoup de difficultés autour du budget, mais ça, c'est pas que dans la recherche. Il y a des difficultés structurelles avec des envies de changement qui ne viennent pas forcément de la base, mais d'en haut. Il y a énormément d'aspects stratégiques, politiques à considérer. Et tout ça, d'une certaine façon, enrichit, je dirais, ma vision de la recherche, mes recherches. Et je trouve ça très chouette, finalement, d'être au contact de tout ça et de
pouvoir... Mais le projet dont vous avez la charge, Grant, oui, c'est international, il y a beaucoup de pays engagés. Est-ce que vous sentez que les conflits géopolitiques du moment ont une influence sur la façon dont la science, à cette échelle-là, se fait?
Oui, oui, oui. C'est très fort. J'ai très envie de croire, et j'espère pouvoir continuer à croire que la science fondamentale va rester ce dernier rempart de la paix, cette dernière frontière de la paix, parce que nous travaillons sur des questions neutres. Le ciel est à tout le monde. On est tous mus, quelles que soient nos origines et quelles que soient nos cultures, quelles que soient nos valeurs politiques. On est mus par la compréhension de quelque chose de fondamental, la science fondamentale du ciel, des explosions violentes qui ne se passent pas sur Terre, mais dans l'univers. Et en ce sens-là, j'espère qu'on va pouvoir continuer à se tendre la main et à travailler quel que soit le contexte géopolitique. Je trouve que c'est le cas entre les chercheurs. Malgré les complexités géopolitiques jusqu'à présent, et pourtant, enfin, grande a commencé il y a 10 ans, avec mon collègue Olivier Martineau et notre collègue chinois Changping Wu. On a commencé à monter ce projet international ensemble. Et entre-temps, on a eu une pandémie, le durcissement de la géopolitique par rapport à la Chine. Et ça, quand je dis ça, je dis des deux côtés, hein. C'est pas que la Chine qui se durcit, l'Occident se durcit aussi par rapport à la Chine. Il y a la guerre en Ukraine, enfin tout ça. Et puis aujourd'hui, par rapport aux États-Unis, c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus compliqué de collaborer internationalement. Pas au niveau des chercheurs qui continuent à échanger, à parler, à se parler, mais parce que les instances là-haut ont des contraintes, et que ça devient difficile de partager des codes, de partager du matériel, et même de voyager. Des fois, il y a cette dimension-là aussi. Et j'espère que ça ne va pas percoler jusqu'à nous, chercheurs, et qu'on
pouvoir. Mais quelle est l'échéance pour Grant, votre projet? Il est censé démarrer quand? Si tout se passe bien.
Grant a déjà démarré. On a 46 antennes là qui écoutent le signal du cosmos. Et on commence à avoir de beaux résultats. C'est très chouette.
Je reviens à votre livre Comico-Cotera. Y a des très beaux portraits de personnages vivants ou morts dans votre livre, notamment Karl Schwarzschild, qui a eu un destin relativement tragique. Il est mort en 1917, juste après avoir trouvé une solution exacte des équations d'Einstein sur la gravitation, publiée en 1915. Il s'appelle Schwarzschild, qui en allemand veut dire bouclier noir, et c'est lui qui a en quelque sorte contribué à prédire l'existence des trous noirs. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 ou 3 choses sur sa vie, sur son travail, et puis aussi nous dire ce que vous lui diriez ou ce que vous lui montreriez s'il revenait parmi nous?
Merci de me poser cette question, parce que Karl Schwarzschild, au moment où j'ai, pendant toute l'écriture de ce livre, ça a été vraiment un de mes coups de cœur. J'ai découvert
C'est un de mes héros, pour ne rien vous cacher.
C'est vrai. Mmh. Ah oui, mais moi je suis littéralement tombée amoureuse de ce personnage.
Pas jusque-là.
Non, c'était fabuleux. J'ai passé un mois et demi à compiler ses carnets, à lire ses carnets en allemand dans le texte, à essayer de les traduire, à vivre sa joie. Enfin, c'est un personnage qui a eu un destin tragique, mais dont la vie a respiré une joie. C'était incroyable. Il a toujours un bon mot.
Notamment les lettres qu'il envoie à sa femme, oui. Alors qu'il est dans les tranchées.
C'est ça, à sa femme, à Einstein, où il dit, il envoie ses équations et il dit, vous voyez, la guerre est clémente avec moi puisque j'ai pu faire cette promenade au pays de vos idées. Alors que, il y a des cadavres à côté de lui, tout est dans le sang et dans la puanteur. Enfin, c'est extraordinaire. Moi, ce que je me suis dit en lisant ces carnets, en explorant ce personnage, c'est que je pense, et peut-être que j'ai tort, j'espère lui faire hommage d'une certaine façon, mais je pense que c'était un de ces physiciens qui a réussi pendant ce moment horrible de la guerre à survivre parce qu'il a réussi à se réfugier dans la physique et dans ses pensées. Il y a 2 façons, je pense, de survivre lorsqu'on est atteint comme ça dans des circonstances si dures. C'est soit de tout éteindre, ou alors justement d'allumer, mais ailleurs. Et je pense que c'est ce que Karl Schwarzschild a fait. Il s'est réfugié. Si vous lisez ce livre, vous verrez ce petit salon de pensée que j'ai essayé de mettre en scène. Je pense que c'est vrai. En tout cas, c'est un mécanisme que j'ai aussi et qu'à mon avis d'autres collègues ont. Cette façon de s'échapper de la réalité, du quotidien qui peut être dur en se créant cet univers de science. Et c'est vraiment ça qui m'a touchée, moi, chez Karl Schwarzschild.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a publié un article finalement dans lequel il y a la fameuse métrique de Schwarzschild, et l'article est publié le jour où il meurt. Plutôt, il meurt le jour où son article est publié.
C'est ça, oui, oui.
Alors qu'est-ce que dit cet article et qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui pour lui expliquer ce qui s'est passé depuis sa mort?
Donc Schwarzschild écrit deux articles sur le front, qui sont c'est son champ du cygne. Il arrive à donner des solutions exactes à l'équation d'Einstein qui vient juste de sortir. Donc c'est vraiment un moment de bouleversement dans la communauté où, pour la première fois, donc Einstein essayait depuis un certain temps, il sentait dans les tripes qu'il y avait une relation entre la masse et le tissu de l'espace-temps. Et il arrive à mettre ça en équation et il se trouve que Karl Schwarzschild rentre du front à ce moment-là, au moment où Einstein annonce cette équation à l'Académie des sciences et explique cette nouvelle découverte d'une certaine façon. Donc Karl Schwarzschild est là, il est très ému, il retourne au front et il se dit, il faut que je trouve une solution exacte à cette équation. Enfin, il faut, ou en tout cas, ici à Tel.
C'est son projet.
C'est ça. Ici à Muse. Enfin, c'est ça son échappatoire pour réussir à survivre. Et il met en place ses équations. Enfin, il arrive à les dériver. Il trouve ça très simple, d'ailleurs. C'est ce qu'il écrit à sa femme. Il dit, finalement, c'était simple. Et c'est juste parce qu'il se place dans un autre référentiel. Il voit les choses de façon différente. Il avait vraiment une vision de, une habileté à manipuler tout ça. Et donc, il envoie une lettre, il écrit à Einstein en disant, voilà, j'ai cette première solution. Il en envoie une deuxième dans une deuxième lettre. Et c'est ce deuxième article qui est publié le jour de sa mort.
Merci, Kumiko Kotera, pour cette discussion. Je recommande vivement la lecture de votre livre « L'univers violent » qui vient de sortir chez Alma Michel. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Grégory Wallon et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.